Donc d'abord une première deux extraits de déposition lus par Eugénie Alcaizar et François Raison, puis l'intervention de Philippe Solers, qu'il n'est pas nécessaire de présenter, je pense, et puis l'intervention de Didier Schulman, qui parlera plutôt d'un aspect dont on a encore peu parlé, c'est-à-dire des rapports de Léon Werth avec la peinture. Nous allons procéder peut-être comme dans la première partie de l'après-midi, c'est-à-dire regrouper les questions que pourrait susciter l'intervention de Philippe Solers et celle de Didier Schulman en fin de l'intervention de Didier Schulman, si vous le voulez bien.
26 novembre 1940. La bibliothèque ne contient pas que Montaigne, Pascal et Bossuet. J'y trouve une collection du pêle-mêle de l'année 1899. D'où vient-elle? Qui, dans la famille, lisait le pêle-mêle? Autant qu'il me souvient, c'était un de ces journaux qu'on trouvait chez le coiffeur. L'humour était alors de mode. Il y avait une hiérarchie de l'humour, du dessinateur du pêle-mêle jusqu'à Jules Renard. Mais chez les plus humbles des dessinateurs, s'il était systématique, leur humour n'était pas encore mécanique, comme on a vu depuis. Le rire n'était pas toujours industriel, il était parfois encore artisanal. Ces vieux numéros du pêle-mêle me semblent bien moins nocifs que ces magazines d'hier, dont les images provoquent une incohérente excitation et dont le texte commentant l'univers entier, cuisine, cabinet de toilette, sport, art et politique, les réduit à ce qu'on peut saisir un idiot de Bicêtre. Je sais aussi que l'éloignement dans le temps accorde à tous les vieux journaux des vertus que les contemporains ne pouvaient soupçonner. Les caricaturistes de 1899 et 1900 ont pour motif la royale insolence des cochers de fiacre pendant l'exposition, les dangers du cyclisme et la vanité des vélocipédistes qui ne pédalent que pour s'exhiber, la passion des automobilistes déguisés en ours polaires, qui n'est que d'écraser les piétons. Une génération d'adolescents surgit, si on lit les annonces des produits qui font pousser la moustache. « La moustache n'a pas d'âge, jeunes gens, civils ou soldats. Demandez le spécifique de Picard. Moustache et barbe en 15 jours, prix 2,25 €. » Et celle-ci. « La sève capillaire fait pousser la barbe et la moustache magnifiquement, même à 15 ans. » Mais c'est à l'Angleterre que me conduit le pêle-mêle. C'est le temps de la guerre des Boers. L'Angleterre est impopulaire en France au point que les caricaturistes, qui sur tout autre motif s'interdisent l'allusion politique, nous montrent des Anglais vêtus de complets à carreaux, coiffés de casquettes, osseux aux longues dents et sans gêne. Et voici l'annonce du célèbre professeur Victor Vessier. English pickpockets. Si l'anglish est battu presque à chaque rencontre, c'est après le combat que sa valeur se montre. Car dépouillant les morts ainsi qu'un vil corbeau, il prend or, habits et savon du Congo. Je ne m'offrirai pas aujourd'hui le jeu facile du vol historique planant. Je ne veux que tourner les pages d'un vieil album, revoir quelques images, me rappeler quelques contacts.
15 avril 1943. La chèvre de la mère Imbert a fait 4 cabris, 2 vivants, 2 morts. La matrice est descendue. Le vétérinaire a dit qu'il fallait abattre la chèvre. Il l'a pas guérie, il a pris nos sous quand même. J'ai dit, faites ce que vous voudrez, mais je ne veux pas la voir. On l'a pendue à la cave pour que le sang s'écoule. Maintenant, elle cuit. Elle cuit chez la Louise. J'en mangerai pas. C'était pas une vache, comme on dit, c'était qu'une chèvre, mais une bonne chèvre. J'en trouverai pas une pareille. Elle ne cherchait pas ici et là, elle broutait comme une vache, elle donnait 5 litres de lait et de bon fromage. Elle parle d'un seul souffle. Comme si toutes ses pensées n'étaient qu'une phrase, comme si cette phrase n'était qu'un mot. Je ne sais par quelle transition elle passe du deuil de sa chèvre à la misère du temps, à sa propre misère. Je suis assez vieille, je veux bien mourir. Du mieux que j'ai pu, j'ai reproduit ses paroles. Mais s'il fallait choisir mettre en forme, transposer en mensonge littéraire, facilité du roman réaliste, elle n'aimait sa chèvre que pour son lait, elle veut mourir parce qu'elle ne mange plus de pain blanc. Facilité du roman académique et régional. Elle aime la vieille chèvre pour elle-même, c'est un cadeau du bon Dieu. Elle compte ses misères avec une admirable résignation, elle ne se plaint pas. Elle est l'aïeule, la tradition, elle maintient. Et ce « maintenant elle cuit » n'est-il pas shakespearien? D'autant qu'elle l'a légèrement séparé du contenu de ses paroles, qu'elle l'a accompagné d'un sourire doux, triste, qui pouvait se traduire ainsi. « Ce que c'est que de nous, ce que c'est que des chèvres. Hier on broutait, aujourd'hui on cuit dans la marmite de Louise. Le paysan est difficile à saisir parce qu'il ne fabrique pas son personnage, ne l'ordonne pas, ne le lit pas à l'imitation d'un modèle littéraire ou d'un type préconçu. Les fleurs du cresson des prés semblent éclairées au néon. Il y a sur ma table deux volumes de lettres de Voltaire, un Rabelais, un volume de Shakespeare. Et j'ai cette nuit lu Le secret de Chimneys d'Agatha Christie. C'est ainsi. J'entre dans un de ces rêves inertes, secs, que n'accompagne aucune émotion et qui ne laisse aucun souvenir. Il n'y a que deux sortes de personnages, dit le détective, qui se moquent absolument du qu'en dira-t-on. Ce sont les vagabonds et les grands seigneurs. Cette forte maxime psychologique éclate dans le flou du texte. Elle me paraît très pénétrante et très fine. Et d'ailleurs, elle n'est pas tout à fait vide de sens. En cette sorte de littérature, tout ce qui n'est pas combinaison de déplacement et d'horaire prend par contraste une force évocatrice. Qu'un personnage fasse quelques pas la nuit dans un parc, on sent sur son visage le souffle de l'air, on entend le bruit du vent dans les arbres. S'il mange un sandwich, on a faim. S'il se verse un verre de whisky, on sent dans la bouche le goût du whisky. Le roman policier, je tiens de bonne source qu'il n'allait pas à un public populaire mais à un public de bourgeoisie dite cultivée, est un des signes de l'époque qui suivit la guerre de 14.
Heureusement qu'il y a tout autre chose dans Déposition, des choses très graves. Et je suis venu ici pour remercier Viviane Amy d'avoir publié ce livre en 1992 et de me l'avoir fait découvrir. Car comment est-ce que j'ai pu échapper à ce document extraordinaire qui correspond pour moi à des choses que je pense depuis longtemps, qui n'ont fait que renforcer un certain nombre d'analyses que j'ai déjà faites. Comment est-ce que ce livre n'est pas plus connu? Ça n'est pas du tout ce que vous venez d'entendre. Parce que là, ce que vous venez d'entendre, c'est comme si on oubliait l'histoire qui est en train de se passer. L'histoire de chèvre, pourquoi pas. Ça n'a aucun intérêt. Il y a des choses comme ça dans des positions, mais elles sont minimales. Il faut vraiment ne pas vouloir le lire pour ne pas aller droit à ce que pense quelqu'un de lucide, particulièrement éveillé, document extraordinaire, presque unique, sur l'effondrement de la France entre 1940 et 1944. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient? Quel abrutissement général règne? Et alors, vous savez, si on vous parle aujourd'hui de déclinologues, de gens qui trouvent que vraiment il faut au contraire positif et être fier d'être français depuis les druides. Bien entendu, mais comment faire puisque l'histoire est falsifiée depuis fort longtemps? Et ce document de Werth est impressionnant pour l'apprécier. Je me permets de donner un tour personnel à mon intervention. Puisqu'il se trouve que j'ai maintes fois fait allusion dans mes livres à mon enfance à Bordeaux dans une famille particulièrement anglophile, vous avez juste entendu quelque chose d'anglophobique dans ce qu'on vous a lu. Cette anglophobie est française depuis fort longtemps, n'est-ce pas ? Fort longtemps. Sacha Guitry, par exemple, pendant la guerre, pendant l'occupation, songe à publier un livre qui s'appelle « De Jeanne d'Arc à Pétain ». Mais ce n'est pas tout. Dans une famille anglophile, donc, je me suis rendu compte que chaque fois que j'évoquais cette enfance, très particulière, parce qu'il s'agissait quand même d'écouter Radio Londres en cachette, les messages personnels, les Français parlent au français, et avec une intensité qui, pour un enfant de 4 à 6 ans, était très grande. Dieu sait si je pouvais imaginer qu'un réfugié juif, Léon Werth, en l'occurrence, dans le Jura, écoutait peut-être la même chose que moi. En tout cas, il y a quelque chose qui me rapproche fort de lui, c'est finalement une sorte de généalogie imaginaire et quelqu'un qui aurait pu être, pourquoi pas, un oncle ou de la famille. C'est très étrange. Ça veut simplement dire qu'il y a eu très peu de gens qui étaient, à ce moment-là, du côté de Londres par rapport à Vichy, sans parler de Moscou plus tard, et de Berlin par ailleurs. Donc c'est très étrange ce climat français. Je me suis même dit que, ne recevant aucun écho au cours de ma vie, j'allais chercher à la bougie, comme ça, quelqu'un qui serait comme moi, dont les parents étaient systématiquement pro-anglais, et dont le héros n'était autre que Churchill, bien sûr. Hein, comme pour Werth, et comme pour très peu d'autres. Churchill. Parce que si vous regardez la Seconde Guerre mondiale, vous allez commencer par trouver que tout ça n'est pas net. N'est pas net la situation de l'Angleterre en 1940, 1-4 au-dessus de la Manche. N'est pas net le silence lent des États-Unis d'Amérique et de Roosevelt, qui appelle d'ailleurs Staline « Oncle Joe ». N'est pas net toute la culture française qui est foncièrement et depuis, pas quoi, Jeanne d'Arc, Napoléon, si vous voulez, anglophobe. C'est l'ennemi. C'est là. Tout cela est très étrange. Alors, n'est pas net non plus, bien entendu, dès 39, le pacte qu'on appelle germano-soviétique et qu'on ne doit plus appeler germano-soviétique. Il faut l'appeler stalino-nazi de son nom. N'est pas net ce qui s'est passé en Pologne, n'est pas net ce qui s'est passé en Espagne, n'est pas net. Et puis alors voilà que tout à coup arrive en effet cette divine surprise, comme on dit certains, du maréchal Pétain, plein pouvoir, voté par la Chambre du Front Populaire, à quelques exceptions près, qui sont en... Et là-dessus, je me prends vraiment à réfléchir constamment, et je trouve que tout cela a été menti. Il a fallu attendre, rappelez-vous, 1995 pour qu'un président de la République admette la responsabilité de l'État français, alors que les précédents trouvaient qu'il y avait là 4 années à rayer de notre histoire et que le président Mitterrand ne voyait absolument aucune nécessité de souligner la responsabilité de la République, en somme. Enfin, c'était un état d'exception, mais c'était l'État français, mais est-ce que c'était pas d'accord? Alors, avec Werth, on va avoir quelque chose de tout à fait étonnant, et je m'étonne, une fois que j'ai pris connaissance des positions, et puis aussi un peu de ses autres livres, que je connaissais pas vraiment, des positions, je n'ai pas pu m'arrêter de le lire. Hein. C'est un livre absolument extraordinaire, unique. Et alors, je me suis dit, mais pourquoi est-il si refoulé, si méconnu? Pourquoi est-ce que ça n'est pas un héros national? Ben, il faut dire que son dossier est très mauvais. Premièrement, 14-18, ben, il n'est pas vraiment très chaud pour cette boucherie. Cette boucherie dont on vous a raconté monts et merveilles, pas un village de France qui ne comporte son monument aux morts. Mais enfin, les réfractaires, là, ont été quand même très peu nombreux. La guerre, c'est bien joli, mais enfin, c'est quand même du sang, des larmes, de la boue, des massacres inutiles. Vous savez qu'il a fallu très longtemps, c'est Jospin qui a fait ça, pour réhabiliter en somme les mutins de la guerre de 1914-1918, c'est-à-dire ceux qu'on a fusillés parce qu'ils refusaient d'aller à l'attaque. Inutile, parfaitement massacrante, qu'ils en avaient conscience et qu'ils trouvaient qu'il valait mieux rester assis plutôt que d'aller se faire tuer quelques mètres plus loin. On en a fusillé un certain nombre, 2000, je crois. Et vous avez une photo dans Le Monde que vous avez peut-être aperçue, mais si vous ne l'avez pas aperçue, il faut vous la procurer. C'est la seule photo prise d'une chaumière en ruine, enfin d'une maison en ruine, la seule photo authentique qui montre une exécution de mutins de l'armée de 14-18. Cette photo correspond à ce qu'on pourrait dire d'une expérience fameuse que vous connaissez sûrement, j'espère du moins, qui s'appelle l'expérience de Milgram, qui a été réalisée aux États-Unis, sur le fait de savoir, sur 100 personnes, quelles étaient celles qu'on avait évidemment briefées avant, pour leur dire qu'il fallait augmenter la souffrance d'un condamné jusqu'à ce qu'il meure. Alors, on leur écrit, avec de très bonnes raisons, vraiment, c'est quelqu'un qui est de l'axe du mal, un terroriste, ce que vous voulez. Eh bien, sur 100 patients de cette expérience, Milgram, très, très célèbre expérience, pas assez célèbre, il n'y en a que 10% donc, qui hésitaient à pousser le bouton à fond, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Et ceci me paraît être une loi quasiment scientifique qu'on a observée à peu près partout. Sur 100 personnes chargées de massacrer leurs semblables, pour de très bonnes raisons, cela va sans dire. Seule une dizaine résisteront à aller jusqu'au bout. Et cette dizaine, c'est ça qui m'intéresse, alors que les autres sont compacts, collectifs, et tout à fait d'accord entre eux, cette dizaine agit pour des motifs absolument différents et contradictoires. Les uns, c'est pour des raisons religieuses, les autres simplement parce que ça leur donne la colique, les troisièmes parce que leur névrose ne permet pas de franchir la donation de mort. Bref, avec ces dix-là, même y compris, l'expérience a été vérifiée en Pologne, y compris chez les nazis, c'est pareil, il y en a dix qui hésitent à faire sauter la cervelle. C'est pas... Et alors, vous ne pourrez pas les réunir dans un club des non-tueurs, non. Ils sont tous différents les uns les autres. Wert est un de ces dix. Alors, cette photo vous montre donc un officier qui lève son sabre, les mutins attachés, il y a beaucoup de fumée parce que le tir vient d'avoir lieu, les soldats sont réunis, on est en train de fusiller quelqu'un pour l'exemple. Et sur la butte qui est derrière, vous voyez des impacts de balles. Il y a une dizaine d'impacts de balles qui prouvent qu'il y en a eu au moins dix dans le peloton d'exécution qui ont tiré à côté. C'est la première observation. Et vous pouvez à ce moment-là lire la façon dont Wert n'est quand même pas du tout un enthousiaste de la Première Guerre mondiale. Ce qui déjà pèse un peu lourd dans son dossier. La deuxième chose qui pèse lourd, c'est qu'il va se faire remarquer un peu d'enthousiasme, c'est le cas de le dire, et très tôt par rapport à la colonisation. Tous ces sujets sont très d'actualité, vous ne me direz pas le contraire. Donc Cochinchine, il est en Indochine très tôt, je crois en 1926. Et, écoutez, il n'est pas du tout enthousiaste de la façon dont les Français se conduisent là-bas, déjà. Ça correspond, alors, à ce moment-là, à quelque chose qui est très actuel et qui nous ramène à ce que vous aviez le droit ou non de penser, en tout cas, c'est pour ma génération, c'est assez important, de la guerre d'Algérie, que vous n'étiez pas censé appeler une guerre, mais un maintien de l'ordre, c'est toujours Jospin, je ne sais plus si c'est lui, décidément, qui a dit, mais oui, c'était une guerre. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts là-bas, qui ont été d'ailleurs absolument détruits, certains nerveusement, mais ça n'était pas une guerre, paraît-il. Voilà, on vous a menti, donc, pendant très longtemps. 1995, pour reconnaître que le Veldiv, c'est tardif. Tout récemment, les mutins plus la guerre d'Algérie, c'est beaucoup. Vous voyez donc que l'histoire se déplace à une lenteur considérable en France. L'histoire de France se déplace très lentement en France, que chaque fois il y a des polémiques, il y a des gens qui protestent, si, cela. Il y a des bienfaits de la colonisation. Peut-être qu'un jour on va nous dire que la collaboration aussi n'était pas seulement négative. Pourquoi pas? Enfin, ça peut venir dans la foulée. Et alors, cette histoire constamment ralentie, mentie, avec des débats, ce n'est pas moi qui ai inventé ni Bousquet, ni Papon. Et quand je vous dis que je suis de Bordeaux, je sais de quoi je parle. Par conséquent, Wert, mauvais dossier sur ce mot. Mais alors, très mauvais dossier, 40-44, alors là... Mauvais dossier aussi parce qu'il n'est pas du tout stalinien. Ça va lui être reproché après la guerre. Donc il a tout mauvais. Un réfractaire. Et c'est ce fameux déposition qui arrive là comme un document incroyable. Comme si, encore une fois, il y avait eu, un peu comme dans un roman de Swift, une seule personne lucide dans ce pays à cette époque, notant l'incroyable bêtise de la propagande, l'incroyable abrutissement général, ce qui, aux yeux d'un humaniste cultivé, bien sûr, dans sa bibliothèque, il lit, il est dans le Jura, il se soutient en lisant Pascal, Bossuet, Saint-Simon, Voltaire ou Stendhal, qui quand même parle très fort, mais et il est évidemment saisi par l'abjection du régime de Vichy. Je voudrais dire que voilà quelqu'un qui donc est très isolé, qui n'est pas connu. Je voudrais simplement vous rappeler quand même que des gens très, très honorables, très, très célèbres et nobilisés ont écrit des choses très différentes. Par exemple, André Gide, le 10 octobre 42, dit ceci. La collaboration avec l'Allemagne rien n'eût été plus souhaitable, et pour chacun des deux pays, chacun ayant précisément ce qui manquait le plus à l'autre. Mais aujourd'hui, les événements ont fait en sorte que les éléments gaullistes, entre guillemets, l'emportent de beaucoup, 42, en France, en nombre et en qualité. Cela n'entraîne chez moi, c'est André Gide qui parle, du moins aucune déconsidération du maréchal. Alors, ce qui est étonnant, c'est la façon dont les gens parlent au fur et à mesure, tout le temps, même encore récemment, du maréchal. Qu'est-ce que c'est que ça, le maréchal? Le maréchal Staline, le maréchal Juin? Non, le maréchal. Et c'est quelque chose de très impressionnant, parce que je me souviens, à la télévision, il y avait là Alain Robbe-Grillet, qui, pour un livre dont j'ai oublié le nom, peu importe, qui parlait de son enfance, de sa famille pétainiste, avec le portrait dans la cuisine du maréchal. Mais on ne dit pas le maréchal, on dit Pétain. Enfin, je ne sais pas où on est. Alors, Gide. Aucune des considérations du maréchal, au contraire. Il me paraît mener du mieux qu'il peut un jeu difficile, et l'avenir prouvera peut-être que même au moment de l'armistice, il s'en est tiré pour le moindre dame de la France, si tant est qu'un événement prouve jamais rien. Je souscris volontiers à ces phrases de la lettre de Roger Martin Dugard que j'ai reçue hier. Donc, Gide aura le prix Nobel en 1947, Roger Martin Dugard l'a eu en 1937. Ce sont des prix Nobel ou Nobelisables qui parlent. Ce n'est pas rien, et quand même, de la culture française au plus haut niveau, puisque tout cela, c'est quand même la nouvelle revue française. J'avoue, dit Martin Dugard, être très sensible au style et à l'accent de ses discours, le maréchal. On raconte qu'on les lui fabrique, on cite tantôt l'un, tantôt l'autre. Mais, bon, chacun de ces messages rend un son authentique, qui est bien du même homme et qui me va généralement assez droit au cœur. Ses erreurs même ne manquent pas de droiture ni de noblesse naturelle. Il faudra du recul pour éclairer les secrets de l'énigme Pétain. Et c'est un de mes regrets de penser que je mourrai sans savoir. Si savoir quoi, si Pétain n'était pas au fond le plus gaulliste de nous tous, on croit rêver, non ? Mais il importait surtout de ne point le laisser voir. Alors, il y a une autre note de... Oui, c'est aussi Laval, l'autre personnage. Dans Werth, vous lisez ça en parallèle, n'est-ce pas, le journal, le document déposition, avec les jugements les plus sévères, les plus froids, les plus secs, sur ce vieillard sénile et cette espèce de truand qu'était Laval, parce qu'il faut les appeler par leur nom, n'est-ce pas, voilà. Et vous êtes quand même assez surpris de voir à quel point il y a deux poids, deux mesures chez des gens qui sont extraordinairement cultivés, on ne peut pas dire le contraire. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'ils sont édités en Pléiade. Et, par exemple, Martin Dugard, nous sommes toujours au début de ces années-là, n'est-ce pas ? Il y a eu des bombardements anglais, vous allons voir l'anglophobie vraiment fondamentale, c'est peut-être assez étrange. On en vient à regretter, dit-il, Martin Dugard, que toute la France ne soit pas occupée militairement par l'Allemagne, ça va avoir lieu, et que la zone libre ne soit pas défendue par la RAF, comme sont nos côtes de la Manche, Alors, les Anglais ont été reçus à Dieppe d'une façon qui leur enlèvera le goût de revenir. Ce sont des paroles de poids. D'ailleurs, Werth remarque ça, n'est-ce pas, en octobre 42, Laval dit à ses scribes, foutez n'importe quoi pourvu que vous engueuliez les Anglais. Voilà. Alors, voilà encore un des sujets de l'histoire de France, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe encore entre l'imaginaire français, l'imaginaire anglais ? Où est-ce qu'on en est avec tout ça ? Sans parler du supplément qu'on peut ajouter à tout cela, qui demanderait encore un long développement, c'est-à-dire la rentrée stalinienne après la guerre et la chape de plomb considérable qui s'est étendue sur la liberté de penser. Werth en a souffert, d'ailleurs, puisqu'il a été, montré du doigt comme n'étant pas assez stalinien. Alors, son dossier est très mauvais. Il n'est pas l'héroïsme français de la Première Guerre mondiale. Il n'est pas colonialiste. Il n'est pas vichiste. Il n'est pas hitlérien. Et pour cause, puisqu'il est quand même obligé d'aller se déclarer comme juif. Il y a un passage absolument sublime où il va prendre le train pour se faire cette déclaration. Et il n'est pas stalinien. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Disparu. Mais grâce à Viviane Amy, pas si disparue. Alors, rapidement, si je ne le fais pas, peut-être que personne ne le fera, donc je vais le faire, c'est quelques formules de Berthe dans Disposition, très tôt en 40, au moment où on peut craindre que l'Europe soit complètement dévastée par Hitler. C'est ce que Churchill n'arrête pas d'envoyer comme télégramme plaintif, suppliant à Roosevelt. Imaginez-vous que c'est en train de se faire. Et Roosevelt dit oui, d'accord, mais enfin, il faudra que les Japonais s'occupent un peu des États-Unis à Pearl Harbor pour que l'Amérique, petit à petit, rentre vraiment dans le mouvement formidable et technique de la guerre. Il faudra aussi qu'en effet, Hitler se trompe et essaye d'en finir avec Staline, qui pourtant a signé avec lui un pacte tout à fait de fer, apparemment, dont les Polonais ont été les victimes toutes désignées, sans parler du fait que, par exemple, on ne parle jamais de ça, la résistance polonaise qui s'est révélée au moment où les troupes de Staline arrivaient sur la Vistule, c'est pas, vous savez ça, j'espère. Eh bien, la résistance polonaise s'est soulevée et, évidemment, Staline a arrêté ses troupes et les nazis ont fini le travail. 250 000 morts, rien que ça. Il en est sorti, du moins c'est mon opinion, un pape. Alors, Werth dit, voilà, c'est le moment dramatique. Si l'Europe est germanisée, tout est perdu, l'essentiel est perdu. Mais l'essentiel n'est que nuance. Quand Hitler aura donné du pain aux foules, souffriront-elles beaucoup de n'avoir pas le droit de lire Spinoza parce qu'il était juif ? Entre la liberté et l'oppression, il n'y a que la différence d'un nerf pur à un nerf vicié, mais ceux que Hitler chasse, dépouille ou torture, ils crèveront, comme d'autres déjà sont morts et oubliés. L'oppression se stabilisera, une bonne moitié de l'humanité ne la sentira même pas. Oui, c'est très extraordinairement pessimiste. Spinoza, c'est intéressant comme tout, parce que, avec beaucoup de finesse, il raconte que pendant la Première Guerre mondiale, justement, dans les tranchées, et peut-être même dans sa poche, ce qui aurait évité un éclat d'obus de lui traverser la poitrine, il lisait l'éthique de Spinoza. Je trouve l'image formidable. Voilà. Quelqu'un qui, au milieu de la puanteur, du bruit, de la fureur de la guerre, lit Spinoza. Je crois que c'est ouvert, ça. C'est quelqu'un qui garde, dans les circonstances les plus dramatiques, ce qu'il faut bien appeler un goût suprême. Le mauvais goût, disait Stendhal, vous connaissez ce mot fameux, le mauvais goût conduit au crime. Eh bien, justement, voilà, le goût est là. Si Hitler n'était puissant, il ferait rire. Les idées de Hitler ne sont pas même vulgarisation. Elles sont affirmations publicitaires. C'est l'ordre de la publicité pharmaceutique. Elle se moque de la physiologie, de la pathologie, elle se moque de la santé des malades, mais elle fabrique de la croyance et de l'espoir, remue des millions et crée des royaumes de commerce et de l'industrie. Voilà. Donc ça me fait penser que dans son hommage à Churchill, que vous devez lire si vous ne l'avez pas lu, Albert Cohen dit que Churchill a eu ce grand mérite solitaire, ce très très grand mérite de ne pas prendre Hitler au sérieux, de commencer à l'insulter, à se moquer de lui. Il y a eu Chaplin et Churchill, finalement. Toujours des questions de goût. Alors ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? La foule, parce qu'il est très sévère sur tous les personnages de cette guignolade effondrée. La foule, au début du Front populaire, attendait d'être catalysée. Les staliniens la décomposèrent. Les politiciens du socialisme tempéré casèrent leurs créatures et ces étranges hybrides qui étaient à la fois radico-socialistes et staliniens. L'occupation des usines eut le même effet qu'en Italie avant la marche sur Rome. Elle effraya et rassura en même temps les puissances d'argent. Elle montra que cette foule n'était qu'un chœur d'opéra et que les meilleurs savants unis aux meilleurs des manœuvres ne savent que prier ensemble. Vous voyez que c'est pas tant. Il a très mauvais dossier, très très mauvais dossier. En somme, il est réfractaire. Voilà. Écoutez ça, par exemple. Cette tremblante dictature, c'est très beau, n'est qu'une dictature de la rancune politique. les guignols de droite mettent en prison les guignols de gauche. C'est rafraîchissant, vous ne trouvez pas? Le journal est plein d'exercices de bonne humeur et d'optimisme. La France va se relever. La France se relève. On se croirait aujourd'hui. Cette rhétorique de consigne déconcerte par sa stupidité. J'allais dire par sa goujaterie. On ne danse pas dans la chambre d'un grand malade. Donc, le fait de sentir presque seul, parce qu'après il faudrait montrer d'autres documents, qu'on est au milieu de la propagande et de l'abrutissement, que tout est faux, d'où ça vient, je disais le goût. Et le goût se sent partout, parce que comme il aime les peintres et qu'il lit de la très bonne littérature comme contrepoison, Saint-Simon, par exemple, ou Bossuet, qui n'est pas mal non plus dans le genre, dans les époques... Décomposition, il faut aller à la bibliothèque. Voltaire, Stendhal, c'était pas tant ça. Et en même temps, on voit très bien qu'il voit très bien la nature, et alors qu'il est dans une situation extrêmement difficile. Donc ces descriptions de paysages sont tout à fait étonnantes, parce que par la finesse de la perception, les couleurs, les odeurs, des choses comme ça. Alors, ça, c'est très bien. J'ai lu dans le journal qu'on avait révoqué des postiers marxistes, entre guillemets. Ainsi, tous les adversaires du gouvernement sont des marxistes. Cela est d'un haut comique pour qui imagine le visage du maréchal ou de Laval devant trois lignes de Marx prises au hasard. Magnifique. Je lis Bossuet. Ça, c'est très, pour moi, c'est très émouvant, ça. Je lis Bossuet. Je me vante d'ailleurs quand je dis que je lis Bossuet. Ni je lis, ni je ne relis. Je consulte la partition et je fredonne. Je me demande si je n'ai pas toujours lu ainsi. Alors, il faut lire Bossuet sur fond de vociférations, de propagande, d'appel à la révolution nationale et autres choses que la mémoire française préfère oublier. Il faut aller aux choses concrètes, vous comprenez? On peut faire un procès, juger ça dépassé, mais il faut voir comment cette extraordinaire civilisation qu'est la France a pu tout à coup se liquéfier. Il paraît que le maréchal a le regard clair, le bleu vide du regard et l'ordonnance chez les vieux militaires et chez les vieux domestiques de famille. Je me souviens d'avoir écrit avant cette guerre que la France connaissait ce désespoir et cet affaissement qui précède les dictatures, que plus rien ne s'opposait à la dictature que les mœurs de la liberté française, qu'elles étaient le dernier obstacle au nazisme, que la France et l'Allemagne différaient en ceci que Hitler pouvait chasser Einstein ou l'emprisonner, mais que nul Daladier ou Laval ne pouvait toucher à un Langevin. L'obstacle est franchi. Pourquoi dites-vous ou lisez-vous toutes ces choses? Il s'étonne que les rédacteurs des journaux ne connaissent pas la puissance de leur génie comique. Ça, c'est très, très intéressant, parce que quand on est réduit à rire tout seul dans un coin, ça, c'est... C'est très, très beau comme expérience. On imagine Verre dans le Jura, comme ça, se procurant des journaux, et qui a un fou rire, mais tout seul. Il peut rire avec personne, c'est des stupidités en cours. Oui. Par exemple, on lit « Le bonheur d'être pauvre ». Oui. Pourquoi dites-vous et lisez-vous ces choses? Et quel sadisme vous y rend attentif? Je lis ces choses. Parce qu'un signe est un signe. Parce qu'en ces temps, la chronique est comme le reste, dirigée, l'amplification orientée. Parce que la pathologie est une belle science. Parce que jamais la collaboration ne fut aussi étroite entre M. de la Palice, M. Prudhomme et Uburoy. J'attends qu'on me montre quelqu'un qui prend des notes comme ça, entre 40 et 44, en France. Oui. Je vais encore, oui, trouver quelque chose. Ah oui, il y a des boutiques en ce pays de Bresse où je n'ose plus entrer. On est en avril 41. J'ai l'impression que je m'y enlise. Derrière le comptoir, le marchand se meut au ralenti. Il a l'air de dormir dans un bain de glu. Je signale qu'avant qu'il dérape dans un idéal politico-philosophique, il y a un très bon livre à lire qui date de quelques années auparavant, c'est La nausée de Sartre, ou Le voyage au bout de la nuit. C'est-à-dire que ça, c'est exactement la perception juste. Hein. Qu'est-ce que c'est que... Voilà. Il a l'air de dormir dans un bain de glu. Voilà. Ça, c'est... Alors, la pourriture démocratique, comme dit la propagande, oui. Mais la décomposition se faisait en plein air. Ça, c'est très beau. Hein, très beau. La décomposition de la démocratique se fait en plein air. En revanche, Hitler, Mussolini ou le pâle Pétain, c'est la pourriture, la même pourriture enfermée dans une armure. Un seul trou dans la cuirasse et les nez les plus grossiers sentiront la puanteur. Le pâle Pétain. On peut se demander en effet si la question des Français n'est pas un peu là quand même. Il se rembourse en effet sur De Gaulle, mais c'est de ne pas avoir... d'avoir eu un criminel absolument minable à la tête de l'État. Je suis persuadé que les Français pensent qu'ils doivent être punis pour ça, qu'ils se sentent pas bien. Je pense que les Italiens surmontent très bien Mussolini, que les Espagnols surmontent très bien Franco, sans aucun problème, et que, je vais dire une chose horrible, même les Allemands surmontent très bien Hitler, et que peut-être ils ne sont pas si mécontents, en rejetant le diable, bien entendu, d'avoir eu un grandiose criminel. Nous n'avons eu que des criminels pâles, incapables de l'être vraiment. Et c'est ce mensonge qui travaille les imaginaires français. Voilà, ils répètent des phrases de journaux, leurs idées glissent en eux et se suivent comme des hallucinations. Voilà, l'absence de conscience. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, voilà, il fait sa déclaration. Ainsi, ils prétendent m'imposer une autre patrie, un autre groupe. Quelle lâcheté serait de délibérer sur le point de savoir si je me sens ou je ne me sens pas juif. Si vous insultez en moi le nom de juif, je suis juif, éperdument juif, juif jusqu'à la racine des cheveux, juif jusqu'aux tripes. Après, on verra. Je fis ma déclaration à la préfecture, je lançai le mot « juif » comme si j'allais chanter la Marseillaise. Qu'il soit resté en vie, c'est quand même surprenant aussi. Voilà, il y a des perles absolument partout, ce livre est passionnant. Je colle un timbre sur une enveloppe. Vous voyez des toutes petites choses très concrètes. C'est ça. Pas des idées, pas de déclarations. Non, le concret. Je colle un timbre sur une enveloppe. Il est à l'effigie du maréchal. Quand les journaux annoncèrent il y a quelques mois qu'on allait frapper les timbres à son effigie, je me souviens que cela nous parut comique, ridicule. Nous imaginions un vieillard puéril collant sur un album des timbres à son effigie. Mais ce timbre n'est plus comique. Nous mesurons à ce timbre les étapes de la nazification de la France. Le maréchal n'était qu'un vieillard philatéliste. Maintenant, il tue et condamne aux travaux forcés. Il donne la réplique aux assassins de Bohême, Moravie et de Serbie. Il tue au service de l'Allemagne. Les lettres de dénonciation pullulent. Les inspecteurs ont encore fait hier à la gare une belle capture, une femme qui transportait 6 œufs. Oui, Brecker, ça aussi, c'est un... Alors les peintres, de Rhin, Vlaminck, le Vlaminck qui fait l'article contre Picasso en pleine guerre. On est dans des choses très, 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 très précises, là aussi. Quel beau documentaire ils auraient pu tourner. Voilà, le beau voyage. Vlaminck, de Rhin, Vlaminck, c'est Gonzac, d'autres peintres. Voilà, des musiciens, des écrivains ont accepté l'invitation de Hitler au beau voyage en Allemagne. Quel beau documentaire ils auraient pu tourner. Peut-être par la portière de leur wagon agitèrent-ils leurs mouchoirs pour saluer galamment quelques Français qu'un autre train emportait vers le camp d'Auschwitz, qui s'en allait mourir au camp d'Auschwitz. Quel beau documentaire ils auraient pu tourner. Banquet présidé par le sculpteur Brecker, enchaîné sonore, heurte des coupes de champagne, bruit des bouchons qui sautent, tac-tac des mitrailleuses. Analogie visuelle, un serveur aligne au plancher des bouteilles vides, des soldats allemands alignent au sol quelques cadavres d'otages français fusillés. Oui, c'est le contre Picasso.
Ah oui, ça c'est très, très amusant aussi. Il me revient sur Pétain, voilà comment on l'appelle. Une anecdote qui, si je m'en étais souvenu plus tôt, m'eût épargné beaucoup d'inutiles psychologies. Peu d'années après la guerre de 14, le sculpteur Brasseur avait eu la commande d'un monument commémoratif pour je ne sais quelle ville du Nord. On en montra la maquette à Pétain, un groupe de soldats et un officier. « C'est beau, » dit-il. Mais il faut faire l'officier plus grand que les hommes. Alors évidemment... Ah si, aussi ça c'est très bien. À Lyon, voilà l'extrait du journal. À Lyon, 703 mamans ont été fêtées et récompensées. Mais la partie la plus touchante de cette solennité devait être la lecture des meilleures lettres adressées par les enfants des écoles à leur mère. Elles avaient en effet quelques mérites à être spontanées. Nous entrons dans une civilisation où la pudeur est abolie. On apprend aux enfants à fabriquer sur commande, sur ordre administratif, des lettres tendres à leur mère. Et oui, ça le fait même. J'ai eu honte en Indochine, etc. aussi, voilà. Oui. Et ça, en Allemagne, on supprime sur les monuments aux morts de la guerre de 14 les noms des Juifs. C'est un symptôme important. L'hitlérisme est puissant par la négation, fût-ce de l'évidence, par la confusion du signe et de la chose. Ça, c'est très, très, très bien. Il n'y a pas de juifs morts à la guerre si l'on décide qu'il n'y en a pas. Le mensonge et la vérité se valent. Très important. C'est une réflexion à propos du mensonge et de la vérité qui me revient. C'est, Staline disait ça de Hitler, il dit mais il n'y arrivera pas parce que il finit par dire ce qu'il fait. Il n'est pas assez fort en mensonge. En effet, Staline a duré plus longtemps. Il était plus fort dans le mensonge. Oui. Ou plutôt, dit Werth, il a raison, il n'y a ni vrai ni faux. Ainsi, dans sa pauvre sphère, Maurras était un précurseur quand il inventa le faux patriotique. Ça, c'est vrai, faux, tout ça. Ça peut. Laval parle, il ne dit rien. Son discours n'est qu'une version à peine transposée de la timide note allemande transmise avant-hier aux journaux. Les thèmes habituels de la collaboration, mais édulcorés,
Sans doute, il y a un « le gouvernement ne tolérera pas ». Mais la menace est vague, sans insistance, une clause de style. Le discours de Laval est le bavardage à vide du ministre qui, parlant en province, sait que le ministère sautera le lendemain. Encore une fois, qui était capable, enfin, peut-être de le penser, mais de l'écrire, de le noter. L'entrevue d'Hitler et Laval à Munich, quelle scène pour qui est curieux des monstres humains. Le puissant Hitler est celui qui pense ça participer à sa puissance. L'homme des trans est le maquignon. Ah oui, ça c'est très bien. L'homme des trans est le maquignon. Tous deux de la plèbe. Non du peuple. Tous deux d'une répugnante vulgarité. Mais la vulgarité de Laval ne trouble pas, elle est mesurable. C'est un taulier à grosse bague. La vulgarité de Hitler est sans dessein, sans trait. Elle fait peur parce qu'elle est partout en lui, infinie, insaisissable. À côté l'un de l'autre, le fanatique et le roublard. Ont-ils l'un pour l'autre joué la sobriété diplomatique, etc. etc. C'est bien, non ? Vous voyez la plume ? C'est bien de le faire au moment même, hein, pas plus tard. Voilà. La jalousie. Il a fallu la guerre pour que je connaisse cette panacée. La jalousie pour certains paysans et pour une certaine plèbe. Très, très important d'employer ce mot. Ce n'est pas un sentiment. C'est une sorte de mobile universel, mieux de cause première. Elle meut le monde. Elle en résout toutes les complications, en éclaire tous les mystères. La jalousie, et non pas tel ou tel jaloux. La jalousie est une divinité, à moins qu'elle ne soit la fatalité. Depuis 2 ans, la France a exprimé moins de pensées qu'une tribu de pygmées africains. Voilà. Il y a toujours une. Oui, il y a aussi. À propos des maires qui sont. Oui. Qui sont mobilisés. Faites des maires, etc. Les lettres sont tellement. Qui sont publiées sont tellement. Sont tellement débiles. Que. Verte note sèchement. Que ça donnerait. Au moindre enfant. Le désir d'égorger sa mère. Merci de votre attention.
Merci Philippe Sellers. Nous avons quelques minutes de battement, donc je, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, si on a le temps d'une ou deux questions, d'une ou deux remarques, si vous voulez, avant de passer à l'intervention de Didier Schulman, si quelqu'un veut réagir ou... Non.
Vous voulez parler ?
Oui, alors attendez, on va vous passer le micro. Il arrive jusqu'à vous. Voilà, si vous voulez. Allez-y.
Il y a un philosophe que vous aimez beaucoup qui est Heidegger, et on nous raconte en ce moment qu'il était justement nazi.
Oui, et alors ?
Eh bien, je me demande quelle est votre réaction par rapport à ça, puisque vous admirez Léon Wers qui s'était opposé justement au nazisme, et vous appréciez aussi beaucoup Heidegger, alors que lui, il était précisément, d'après ce qu'on dit, nazi.
Écoutez, madame, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un sport très courant. Ça s'appelle la réduction ad Hitlerum, n'est-ce pas ? Nous parlons de deux époques complètement différentes. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ce débat. Puisque je vois que vous posez tout de suite une question sur Heidegger qui empêcherait d'entendre ce que j'ai dit moi personnellement sur Berthe. Voilà. Et donc ma biographie vous répond que cette question ne me gêne absolument pas, mais qu'il faut faire à ce moment-là un autre débat auquel je suis prêt à me rendre et à vous donner tous les arguments de ma considérable admiration pour la pensée de Martin Heidegger.
Oui, ce serait un vaste débat, vous avez raison, Philippe Solers, il est en cours d'ailleurs. Et voilà,
donc, voilà c'est tout un autre. Nous sommes en plein dans ce débat, mais je voudrais pas qu'on oublie Léon Werth et tout ce que j'ai dit.
Bien sûr,
absolument. C'est-à-dire toute la période considérée pour la France, n'est-ce pas? Puisque je suis français et que j'ai parlé d'une situation bien précise en France. Vous n'êtes pas contre le fait qu'on parle de la France, madame?
Non, monsieur, pas du tout.
Alors, une autre remarque ou une autre question? Oui.
Oui, juste un mot à propos d'un autre grand auteur. Vous avez cité La Nausée, Vive la littérature. Mais peu de temps, quelques années plus tard, il y a le Sartre, commentateur de l'actualité, dans le journal de la Drôle de Guerre, qui montre un esprit qui ne comprend rien.
C'est ce que j'ai dit avant qu'il s'engage.
Ce qui donne d'autant plus. Mais c'est pas de la philosophie, là. C'est du commentaire au jour le jour, un petit journal comme ça sur le front. Qui montre quelqu'un qui ne comprend rien à ce qui se passe, qui ne voit pas du tout l'importance.
On sait très bien, cette question a été débattue, mais nous ne sommes pas ici pour faire le procès de gens qui ont
non,
été
mais
plutôt...
Ça donne
plutôt
d'autant plus
nous
ne
sommes pas là pour faire le procès de gens qui ont été plutôt géniaux par ailleurs. Mais c'est vrai que, évidemment, ça leur est suffisamment reproché pour qu'on
ça puisse passer...
Ça donne
d'autant plus de relief
de Sartre,
à la clairvoyance
Sartre et Beauvoir n'ont rien vu venir, oui, bien sûr, mais ils ne sont pas les seuls. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la lucidité de Léon Werth. Et alors là, elle a une histoire, il faudrait savoir comment une certaine culture française s'est transmise. Ouais, vous savez, avec la France, à mon avis, tout est à refaire. Pourquoi il y a cette espèce d'embarras général, c'est que au fond, il faudrait reprendre tout et voir un peu, clarifier tout ça. Je crois que c'est possible à peu près maintenant, mais malheureusement, il n'y a personne pour le faire vraiment, voyez-vous.
Une autre remarque, une autre question?
Oui. Françoise Cachin, là, le micro.
Je souscris tout à fait à votre admiration pour Léon Werth, et je trouve formidable que les éditions Amis aient organisé tout cela et que des gens de votre talent soutiennent quelqu'un qui est complètement oublié. Effectivement, il n'a pas fait un grand
roman. Pour les raisons que j'ai dites.
Oui. Il est un témoin extraordinaire et un écrivain extraordinaire. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que vous avez l'air de dire qu'il est tout seul. Beaucoup de gens pensaient comme lui pendant la guerre. Beaucoup de gens. Mais oui, simplement, ils n'étaient pas écrivains, il ne reste pas de traces.
Bon, je veux des documents, voyez-vous.
Vous avez raison, mais heureusement...
Parce que beaucoup de gens se sont inventés aussi une mémoire d'après-guerre, revenant...
Je pense que plus... Simplement, il n'avait pas son talent, il n'avait pas, etc.
Peut-être.
Mais il ne faut pas peut-être noircir complètement
Azéma
la France.
Azéma m'a signalé qu'il est compétent là-dessus, il doit être par là. Donc Azéma m'a dit qu'il y avait un autre livre à peu près, un autre document. Oui, voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de choses.
Relativement peu.
Voilà. Il y a peu de choses, voilà. Oui. Il y a bien sûr des récits de souffrance, des tas de choses comme ça, mais pas cette acuité de jugement sur le terrain.
Oui, mais pensez...
Voilà des conneries, tout le monde les avale.
Quand, dehors de ces exceptions, toute la France était courbée...
Oui.
Non, là, je ne suis pas d'accord. Quoi?
Toute la France, elle n'est pas pétainiste?
Mais bien sûr que non.
Ah oui, bon, là.
Mais bien sûr que non.
Oui, bien sûr.
Bien sûr que non.
Ah ouais.
Non, mais écoutez,
on a le même âge. Ce n'est pas ce que j'ai vécu.
Moi aussi, j'ai vécu
ça. Ce n'est pas ce que j'ai vécu, excusez-moi. Voilà.
Non. Toute la France n'était pas pétainiste. La majorité de la... Enfin, non, je ne suis pas d'accord. Je défends,
si la France n'était pas pétainiste,
les gens que j'ai pu connaître,
pas passé grand-chose,
à peine plus vieux que moi, mais je peux vous dire beaucoup de
gens. Ils ont été pétainistes, ils ont été gaullistes le lendemain, mais ça ne fait aucune différence, nous sommes d'accord. Comme Mitterrand, quoi.
Alors, moi, je voudrais vous poser tout de même une question. Vous avez magnifiquement démontré, Philippe Solers, les raisons de l'oubli dans lequel s'est retrouvée...
La censure, je ne sais pas.
Absolument, l'œuvre de Léon Werth. En revanche, l'explication que vous donnez à sa pertinence extraordinaire et à l'intelligence de ses propos, est-ce que vous pouvez un peu la développer? Parce que vous faites une apologie du goût. C'est une thèse, mais...
Le goût évite le crime. Le mauvais goût conduit au crime, dit Stendhal, c'est une formule magnifique. Ben, je ne sais pas, oui, tous ces gens, enfin, toutes ces marionnettes sanglantes se signalent par un mauvais goût effrayant. Enfin, c'est ce que je crois qu'on peut dire. Hein. Mussolini, Pétain, Franco, Hitler, Staline. Voilà.
C'est-à-dire,
la vulgarité. Oui. Et alors, il y a le terme qu'il emploie, là, m'intéresse beaucoup, c'est la plèbe.
La plèbe opposée au peuple.
C'est quelque chose que, si vous avez lu le très beau texte de Hannah Arendt dans Men in Dark Times, les vies politiques dans la traduction française, le très beau texte d'Hannah Arendt sur Martin Heidegger, justement, elle dit ça, que brusquement, il y a eu quelque chose comme une sortie des caniveaux, comme la plèbe. Ceci a d'ailleurs été prophétisé par Nietzsche, auparavant, qui, comme vous savez, pensait qu'il allait arriver quelque chose d'épouvantable à l'Europe et à l'Allemagne et à l'Europe par la suite. En quoi il avait parfaitement raison. Mais c'est le mot plèbe qui est intéressant. C'est-à-dire, les classes sociales sont effondrées, la bourgeoisie n'est plus la bourgeoisie, enfin la noblesse. Prenons les choses d'aujourd'hui. La noblesse et les page people, ça n'existe plus. Bon. Liquidation. La bourgeoisie française a tenu un certain coup, mais à mon avis, depuis une cinquantaine d'années, elle est absolument en liquéfaction. Les classes sociales, la petite bourgeoisie, les classes moyennes, bon, c'est tout le monde et n'importe qui, donc on ne sait même plus de quoi on parle. Il y avait un héros, un très grand héros rédempteur, qui était le prolétariat, hein, qui devait abolir les classes sociales et nous remettre dans le droit chemin. Voilà. Eh bien, le prolétariat, voilà, c'est fini aussi. Donc, qu'est-ce qui reste ? Bizarrement, c'est la plèbe. Et la plèbe, vous ne pouvez pas la localiser ici ou là. Nietzsche dit très précisément « plèbe en haut, plèbe en bas ». C'est-à-dire que vous passiez du haut ou du bas. Voilà. C'est, à mon avis, ce qui rend le déposition de Werth tout à fait extraordinaire, c'est qu'il sent qu'en effet, la plèbe est en haut désormais. Hein, truand, vous avez vu, ces mots sur la balle. La plèbe est en haut et la plèbe est en bas aussi. Alors, qu'est-ce que vous faites quand la plèbe est partout, c'est-à-dire en haut comme en bas ? Ben, vous êtes tragiquement seul avec Bossuet, Saint-Simon, Pascal, Stendhal, Voltaire, qui sont en effet plus vivants que tous les vivants de l'époque où vous êtes.
Alors, on va peut-être écouter une lecture, un extrait, deux extraits à nouveau de déposition, par François Raison et Eugénie Alcaesar. François, oui.
Ma camarade revient tout de suite. « 16 septembre 1943. Ce qu'il y a d'agréable dans la croyance, c'est que le croyant n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de lui, Dieu ou un autre. Selon leur éloignement, selon notre état de distraction, les événements nous heurtent, nous cognent ou au contraire s'organisent en tableau d'histoire ou se résorbent en généralité de manuel. » Je me souviens que, dans un article écrit vers 1910, j'éreintais un peintre russe dont la peinture me semblait détestable. Et par un de ces artifices que la rhétorique prête à la mauvaise humeur, j'imaginais, et de cela je me souviens avec quelque honte, que ces mauvais tableaux expliquaient les pogroms. Les Cosaques ne sabraient, pillaient, violaient, tuaient que parce que, ayant vu les tableaux de ce peintre, ils avaient été pris de folie furieuse. Est-il besoin de dire que les tableaux étaient pour moi des objets réels et que les pogroms étaient si lointains qu'ils me paraissaient de l'ordre de la fiction ? Délivrés ou nous croyant délivrés de la vieille morale hypocrite, nous la transportions, armés de toute sa rigueur, au plan de l'art. Nous n'étions pas de débiles esthètes. Nous détestions le mauvais écrivain, le mauvais peintre. Ils étaient pour nous une des figures de l'injustice et de la bassesse. Nous confondions le mauvais peintre et le méchant homme. Après tout, à la limite, tout cela était vrai. Un homme de 25 ans peut-il aujourd'hui comprendre ses colères et ses illusions ? Pour croire que la guerre est divine, encore faut-il croire en Dieu. Il y a toujours eu des guerres, il y en aura toujours. C'est bête comme un proverbe, et même davantage. Mais Fèvre ouvre une porte sur l'inconnu. Tout se passe comme si la guerre était inhérente à l'homme, dit-il. Je ne cite pas. Je rassemble et contraste, après plusieurs jours, quelques bribes de conservation. Je résume et je trahis. Je transforme en bâtisse de 6 étages l'abri que choisit une seconde une pensée qui s'interroge. Mais qui pourrait croire que Fèvre songe à paraphraser le homo homini lupus ? Fèvre ne pense pas, par exemple, de grammaire. Il veut dire qu'il n'y a pas d'explication totale de la persistance des guerres, qu'elles renaissent malgré l'expérience et la crainte qu'en ont les hommes, malgré leur atrocité accrue par la technique. Dans cette persistance des guerres, il y a une ou plusieurs inconnues. Proudhon, me dit Fèvre, a écrit là-dessus des choses fortes et neuves.
23 octobre 1943. Je désire aujourd'hui non pas les quais, non pas la perspective de l'étoile. Ce dont je suis privée aujourd'hui, c'est du boulevard et du faubourg Saint-Denis, du boulevard et du faubourg Saint-Martin, de ces lieux si peu vieille estampe, si peu Haussmann, où passaient ces êtres rabougris et bizarres. Reverrai-je ce bureau de tabac-café où s'assemblaient pour l'embauche de pauvres chanteurs, de pauvres chanteuses ? Je m'asseyais. J'avais acheté au seul kiosque où on le trouvait, à l'angle du boulevard de Strasbourg, Le Nouvelliste, organe professionnel des artistes lyriques, des artistes de music-hall et de cirque. Je lisais les annonces. J'imaginais des armées d'hommes serpents et de romancières. J'imaginais de tristes meublés et toutes ces vies qui, malgré tout, brillent quand s'allument les lumières des rampes et des cafés à tréteaux. Il fut un temps où je ne me connaissais pas d'autre ennemi que les négateurs de la peinture moderne. Les conflits d'aujourd'hui sont plus étendus et plus gros. Quant à la peinture, ce n'est pas contre ses ennemis, mais contre ses amis qu'il faudrait la défendre. Seule, au milieu des autres, m'écrit Suzanne, je ne peux plus échanger avec toi le petit coup d'œil qui nous lie par-dessus le monde. Oui, ce petit coup d'œil, c'est tout.